6h50, l'actualité de la semaine, vue par nos confrères de Courrier International, c'était mardi. Deux explosions ravagent Beyrouth. Depuis, la capitale libanaise est en deuil. On déplore au moins 154 morts et plus de 5000 blessés, des dizaines de disparus également, ainsi que des centaines de milliers de sans-abri.
Le feu, le claquement assourdissant de deux explosions et le chaos.
A massive explosion has torn through the Lebanese capital, Beyrouth.
Toute ma ville est détruite. Les endroits que j'aime de ma ville n'existent plus. Il n'y a plus rien. Et je sais qu'on ne va pas pouvoir reconstruire cette ligne.
Bonjour Ingrid Tawat.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Ingrid, on va regarder donc avec vous les premiers mots de la presse libanaise.
Oui, le lendemain de la catastrophe, Patricia Koder, journaliste pour le quotidien libanais francophone L'Orient le Jour, a sillonné la capitale libanaise à moto. Elle a traversé des quartiers entièrement soufflés et a livré un récit tout à fait poignant. Elle parle d'une destruction digne d'un film de fiction. Elle va jusqu'à dire, avec l'émotion des lendemains de catastrophe, que quand le soleil se lèvera, Beyrouth, ma ville, n'existera plus. Et pourtant, Beyrouth existe encore et Beyrouth est en colère. Toujours dans L'Orient le Jour, la journaliste Fifi Aboudib met la classe politique en garde. Elle en a assez qu'on parle de la résilience des Libanais. Elle demande à ses concitoyens de faire passer un message aux politiciens. Et ce message, le voici. Dites-leur que nous n'avons plus de courage. Dites-leur que nous ne serons plus jamais résilients, que nous sommes habités d'une colère homérique, que le vide est préférable à leur abjecte figuration et que les foules excédées préparent déjà les potences s'ils ne partent pas de leur plein gré. La même colère est palpable quand on lit le site libanais arabophone Daraj. Pour lui, Beyrouth est surtout une ville martyre. Premier constat, les guerres successives traversées par la ville n'avaient pas laissé de destructions aussi massives. Mais si Daraj est en colère, c'est parce que la première évidence est que derrière cette explosion, il y a une incompétence formidable, ou une corruption formidable, en plus d'une mafia au pouvoir. Beyrouth est une ville sinistrée par une terrible explosion, mais aussi par la faillite, par la corruption, par ses présidents, par son gouvernement, sinistrée par tous ses morts. Pleurons, Beyrouth, écrit Daraj. Mais pleurer ne suffit pas. Et Daraj appelle lui aussi à la démission de l'ensemble de la classe politique qui n'a su, au lendemain des explosions, manifester ni efficacité, ni empathie, ni même honte.
On part à présent, Ingrid, au Royaume-Uni où on s'interroge sur le télétravail. Beaucoup de cadres se réjouissent de pouvoir travailler chez eux, mais Ingrid, il pourrait y avoir un revers à la médaille.
Oui, Laetitia, vous avez raison, et c'est plus précisément le journaliste Alistair Health qui le dit dans un billet, un brin provocateur, publié par le Daily Telegraph de Londres. Alors, si les cadres peuvent travailler n'importe où, au fond, qu'est-ce qui empêchera les patrons de recruter des cadres moins chers, mais à l'étranger? Bref, de délocaliser les emplois. Le Daily Telegraph parle justement de millions d'emplois devenus exportables. Les cadres, qui étaient jusqu'à maintenant les grands gagnants de la mondialisation, pourraient bien en faire les frais à leur tour. Et Alistair Health va plus loin. Il pense que cela remettra les villes, villages et campagnes à un niveau plus égal, élargira l'accès à la propriété foncière et à l'automobile, causera la faillite des réseaux de transport public, que toute augmentation d'impôts sera insupportable et que les universités devront de toute urgence se débarrasser des cursus inutiles. Autant vous dire, Laetitia, que travailler de chez soi, ce n'est peut-être que la première étape avant de très grands et peut-être de très graves chamboulements.
Chez soi, on travaille, mais aussi on fait de la cuisine. Et le meilleur resto, on peut le dire, c'est à la maison. Et ça, c'est la devise d'Alison Roman.
Oui, Alison Roman, c'est une chef pâtissière reconvertie en journaliste culinaire pour le magazine Bon Appétit, ou Bon Appétit, puis pour le New York Times.
I'm Alison Roman, and I'm going to be making a creamy cauliflower pasta with pecorino breadcrumbs. It is truly an all-seasons delight.
Amazing, incredible, comme disent les Américains. Son compte Instagram est justement suivi par plus d'un demi-million de personnes. Elle propose des recettes réalisables par tous, avec des ingrédients trouvables au supermarché. Et justement, sa notoriété a explosé pendant le confinement. D'ailleurs, le site américain Vox et le quotidien allemand Die Zeit lui ont consacré de très longs articles. Mais attention Laetitia, ces propositions de recettes ne sont pas sans faire polémique. Pour certains, elle réinvente quand même un peu l'eau tiède. C'est une critique notamment qui vise son plat appelé « the stew », le ragoût, et qui n'est qu'une pâle copie, je vais vous dire mon avis, même une copie très franchement au rabais, de curries indiens. D'ailleurs, le journaliste d'origine indienne Navneet Alang a analysé ce phénomène pour le site américain Eater. Pour lui, le plus important est bien de se demander si une personne de couleur aurait pu également faire le buzz avec un simple plat mijoté à base de pois chiches et de curcuma. On sent bien que non, et c'est évidemment un gros problème. Un problème que vous comme moi, Laetitia, pourront garder à l'esprit la prochaine fois qu'un chef connu fera le buzz avec un plat dit exotique.
C'est bien noté, merci Ingrid Tarouat.
Merci Laetitia Gaillet.
C'était l'actu international avec nos confrères de Courrier International, il est 6h55.